Estive.
Estive.
Voyage au cœur de la culture pastorale des Alpes. Une émission proposée par la Maison du Berger.
Estive.
Ouais, allez hop, c'est parti, qu'est-ce que je fous là? En fait, j'ai écrit une partie sur, grosso modo, on m'avait proposé sur le comportement du troupeau. Et en fait, j'ai élargi en commençant par une brebis késako comme animal. Et c'est un petit ruminant qui raffole des croquettes pour chiens. Et, et puis après, qu'est-ce que c'est qu'un troupeau? C'est-à-dire plusieurs brebis ensemble, mais les brebis, ce n'est pas toutes les mêmes selon les races, les modes d'élevage, etc. Ensuite, on part en montagne. Qu'est-ce que c'est qu'un peu le métier de berger? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit s'y prendre? Et qu'est-ce que je fous là? Donc, de recentrer un peu le métier de berger, qu'est-ce que c'est? Bah, ça fait partie d'un cycle de production agricole, que ce soit de la viande, du lait ou de la laine. Le cycle, en général, il dure une année. Et donc, le métier de berger, on intervient sur une partie de l'année. On fait pâturer les bêtes en altitude, là où l'herbe est bonne et la meilleure pour elles. Et on s'occupe du troupeau là-dedans. Parce que, au fil du temps, en fait, avec la solitude, la fatigue, etc., on se pose beaucoup de questions, on doute énormément. Et il y a un moment où on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? À quoi ça sert? À quoi bon? Parce qu'on est souvent désemparé, surtout quand on ne connaît pas bien le comportement des bêtes et qu'on n'y arrive plus, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec un troupeau. On fait ce qu'on peut. Et les bêtes, quand elles ont envie de quelque chose ou quand elles n'ont pas envie, eh ben, on ne les tord pas dans l'autre sens. On ne fait que anticiper leur comportement et essayer de gérer quelque chose qu'elles feront de toute manière. Mais on n'est pas, on ne peut pas les soumettre, en fait. Surtout un troupeau en entier, on ne peut pas les soumettre. Donc c'est important de recaler pourquoi je suis là, ben, dans le système de production agricole, sur une saison. Et du coup, quels sont les objectifs? Donc, bah, par exemple, ici, c'est des brebis viande, on dit. Donc là, c'est des brebis gestantes et les agneaux sont destinés à la boucherie. Et puis donc, on doit faire manger le pâturage correctement. Il ne faut pas que ce soit surpâturé dans certaines zones ni sous-pâturé dans d'autres. Il faut que les brebis mangent correctement. Il faut qu'on les soigne si elles ont des maladies. Et déjà, de savoir précisément nos tâches, et qu'est-ce qu'on fait là, ça aide, ça permet de cadrer un peu dans les moments de doute, dans les moments de grande fatigue. Voilà.
Zeppeline, viens au pied.
Août 2015. Lucie Maréchal nous accueille, Olivier Turquin et moi, sur l'alpage du palastre Clos Lamiande, dans les Hautes-Alpes. Olivier est monté jusque-là pour lui porter quelques pages du petit manuel du berger d'alpage, en attendant que la première version soit imprimée. Lucie fait partie de la vingtaine de bergères et bergers qui y ont participé. Retour sur les tenants et les aboutissants de ce petit manuel, porté par l'association Aspire, en partenariat avec la Maison du Berger et l'Association des bergères et bergers de Provence et des Alpes du Sud.
C'est quelque chose qui doit rester utilisable, donc un manuel qu'on peut avoir avec soi. Ça s'adresse aux bergers, mais pas à tous les bergers. La première édition, elle s'adressera surtout, en tout cas notre cible privilégiée, c'est les bergers qui s'occupent de brebis allaitantes et puis d'alpage, parce que berger, c'est un métier qu'on peut exercer toute l'année et dans toutes les conditions, donc la période estivale, où eux exercent le métier de gardien de troupeau de brebis en l'occurrence, dans des espaces pastoraux d'altitude, la plupart du temps au-dessus de 1500 mètres, en tout cas dans nos régions.
On m'a expliqué que ce serait un manuel destiné aux bergers qui débutent. Donc ce serait de leur apporter tout ce qui est indispensable quand on commence à travailler en tant que berger ou bergère. Donc j'ai essayé de me remettre dans ma propre peau 15 ans en arrière. C'est assez facile, je m'en souviens. Et de tout ce qui a été difficile pour moi et que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ou à apprendre, alors que si on me l'avait dit dès le départ, j'aurais gagné beaucoup de temps et j'aurais été plus performante dans mon travail beaucoup plus vite. Comme on se pose beaucoup de questions dans ce métier, puisqu'on travaille seul et que comprendre le comportement animal, si on n'est pas habitué, c'est assez difficile et c'est long. J'ai essayé d'écrire ça sur un ton assez léger parce que il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est un beau métier. On apprend au fil du temps, enfin une façon de dédramatiser parce que malgré les apparences, en fait, dans ce métier-là, on peut quand même beaucoup stresser, se poser beaucoup de questions, etc.
Notre premier souci, c'est que le berger soit bien en alpage, pour lui-même, mais aussi pour la fonction qu'il remplit. Donc, on commence par un chapitre sur le prendre soin de soi, éviter d'aller au-delà de ses limites. Dire, bah, si le jour où on est très fatigué et qu'il faut aller chercher une brebis sur une malle rocheuse parce qu'on a peur qu'elle tombe, bah, la brebis elle est plus astucieuse et elle est sans doute en meilleure forme et bien souvent elle va en sortir toute seule. Donc on essaye de mettre un certain nombre de limites qui sont les limites que les bergers expérimentés donnent aux jeunes qui démarrent. C'est bien que les bergers sont des gens qui sont isolés et comme beaucoup de travailleurs isolés, il y a des moments où ils craquent, il y a des moments où ils en ont marre. Et bon, c'est vrai que certaines fois, ils se rabattent sur l'alcool, sur l'herbe, sur des consommations excessives. Donc là aussi, on attire l'attention, mais pas plus que d'autres, je dirais. Mais on pense que ça a sa place. On met aussi l'accent sur la manière de se nourrir, parce que c'est pas si facile que ça de se nourrir en alpage. C'est des sportifs, hein, nos bergers. Il leur faut donc une nourriture d'actifs, qui est en plus réalisé avec des aliments qui peuvent se conserver. Le ravitaillement, c'est une fois par semaine. On monte des provisions en début de saison. Difficile de monter les légumes, c'est lourd. Donc l'alimentation est un des secrets de la santé et du bien-être. Et elle est souvent négligée. Donc là, on donne aussi des astuces de berger. Quelques recettes faites avec des herbes qu'on peut trouver sur l'alpage. Ça fait plaisir, des fois, on se dit, tiens, cette mauvaise herbe, finalement, elle est consommable. Et puis, elle ressemble à de l'asperge ou à des épinards. On peut en faire une tarte. Voilà, des choses comme ça. C'est aussi une partie qui nous a paru vraiment importante. Et quand on a fait le sommaire, c'est avec surtout des bergers de l'association des bergers et bergères de Provence, c'est ressorti comme quelque chose de très important. Faut savoir prendre soin de soi, autrement on finit pas l'alpage. Donc on a fait un manuel, c'est vrai qu'on a fait la part belle à ce qui est partagé et ce qui fait un peu justement la base du métier selon un nombre suffisant de gens compétents. Mais on a aussi voulu mettre les conseils, parce qu'on a recueilli des conseils, par exemple, de Francine, qui nous explique comment elle fait ce qu'elle appelle son fond de sac. Le fond de sac, c'est ce qu'elle a toujours au fond de son sac. Mais pour quelqu'un qui démarre, savoir ce qu'une bergère ayant l'expérience met toujours dans son sac, ben, ça va lui éviter quelques déconvenues. Voilà, des choses comme ça, mais c'est aussi des choses plus personnelles, les relations entre les bergers et leurs employeurs. Comment s'y prendre pour éviter de s'engueuler aussitôt qu'il y a un premier problème, quoi. Et puis après, ça peut dégénérer. On se retrouve très vite en situation où on regrette ce qu'on a dit. Bon, accueillir les touristes ou pas les accueillir. Savoir dire à certains que là, ils exagèrent, ils vont trop loin quand ils s'installent à la cabane, quand ils passent au milieu du troupeau, alors qu'on leur a bien dit que c'était pas astucieux, qu'ils allaient se faire bouffer par des chiens dans le moulot et de protéger le troupeau. Bon, voilà. D'autres fois, il y a des échanges qui sont très riches, il y a un plaisir réel d'accueillir et de leur expliquer ce qu'est le troupeau. Voilà, donc là, on a différentes expériences des uns et des autres qui témoignent comment ils s'y prennent pour que ça se passe bien avec tous les autres usagers de l'alpage. Donc on essaye aussi de présenter le berger, non pas simplement comme la personne qui est responsable de faire en sorte que les brebis descendent bien grasses, c'est la base du travail, mais ça se fait dans un environnement qui est aussi un espace naturel, qui est aussi un espace de tourisme, qui est aussi un espace patrimonial. Ici est passé des choses, les gens y ont vécu.
Tout le monde fait ça, en fait. Je pense que c'est au départ un son qui plaît à l'animal, parce que chaque animal, en fait, on l'appelle d'une façon différente. Moi, je ne sais pas faire, mais il y a certains sons, certaines vocalises pour appeler les chevaux, pour appeler les ânes, pour appeler les vaches, pour appeler les chèvres, etc. Et dans l'élevage des brebis viande, du moins, dans tout le quart sud-est de la France, tout le monde fait ça, les bergers, les éleveurs. Tout le monde fait ce son-là. Ce qui fait que même si ça change de berger ou d'éleveur, en principe, elles reconnaissent.
Dans ce petit manuel, il y a aussi des points de vue.
Alors, il y a des points de vue parce que certains sujets sont faciles à traiter. Le fond du sac, bon, on va rajouter un ou deux trucs, mais on sait à peu près. Mais il y a des sujets qui sont plus délicats. Évidemment, actuellement, il y a la prédation qui pose un réel problème pour les éleveurs et pour les bergers, particulièrement en alpage. Bah, le loup s'est invité dans les alpages, il rentrait d'Italie, il a fait un petit détour, il était content de découvrir la France. Bon, le problème, c'est que quand il se nourrit avec les brebis, ben, ceux qui les élèvent ne sont pas très d'accord. Mais là aussi, il n'y a pas une position définitive, univoque de l'ensemble des bergers. D'ailleurs, tous ne sont pas exposés de la même manière. Certains ont des meutes qui sont installées depuis longtemps. Il y a d'autres endroits où on n'a pas encore vu la queue d'un loup. Et les bergers, ben, ils ont toute une diversité de regards qu'on ne peut pas réduire à une seule position. Et on a par exemple un point de vue qui s'appelle « loup, mon ami ». D'une bergère qui l'a connue puisqu'elle l'a vécu et qu'elle le vit toujours. Elle est toujours bergère dans une zone où il y a des prédateurs et des loups actifs. Et bah, qui nous dit toute sa difficulté de voir cet animal qui la fascine et dont elle reconnaît le droit à l'existence venir lui compliquer la vie au point qu'elle n'endort pas certaines fois. Bon, on a mis un point de vue complémentaire qui est le point de vue d'un certain nombre de chercheurs qui est paru dans Libération il y a 6 mois et qui pose la question de jusqu'où la société acceptera que le retour d'un animal sauvage perturbe au point de risquer de faire disparaître une activité humaine ancestrale. Qu'est-ce qu'il faut faire primer quoi ?
En fait, ce qui a été le plus dur pendant longtemps, c'est pas juste au début, c'est de comprendre le comportement des bêtes. Moi, je suis pas née dedans et j'ai découvert les brebis. Quand on comprend pas comment elles fonctionnent, pourquoi, à quelle heure, selon la météo, selon les races, selon le comportement du chien, du berger, etc., le métier est très difficile. Et quand on commence à comprendre, on arrive à anticiper. On se fatigue beaucoup moins et on prend beaucoup plus plaisir dans le métier. Et je trouve que c'est vraiment la chose la plus difficile et la plus longue à apprendre. Parce qu'en plus, la brebis, c'est un animal qui est quand même assez discret, qui n'est pas très démonstratif. Donc il faut vraiment être très très observateur et savoir deviner dans quel état elles sont, si elles ont très faim ou pas beaucoup, si elles ont soif ou pas, si elles ont envie de soleil, si elles ont envie de la petite herbe courte et fine, ou si elles acceptent d'aller manger une herbe un peu plus grossière ailleurs. C'est vraiment ce qu'il y a de plus long à apprendre, je trouve.
Est-ce que ça peut s'écrire dans un livre ? Est-ce que ça ne dépend pas des brebis elles-mêmes, du troupeau, du terrain aussi ?
Si, évidemment, ça dépend d'énormément de choses, et d'une année sur l'autre, le même troupeau n'aura pas forcément les mêmes comportements. Même s'il fait le même temps ou quoi que ce soit, ça varie. C'est du vivant, ça change, c'est mouvant, c'est comme ça. Et si, effectivement, on en apprend énormément sur le terrain. Mais disons que d'écrire dans un manuel, sachez que c'est difficile à comprendre, il faut être très observateur, et qu'il y a tel paramètre, la météo, la race de la brebis, plein de choses qui peuvent interférer, justement, qui peuvent influencer le comportement des animaux, ça éveille le questionnement pour le berger qui commence et qui se dit « c'est pas forcément de ma faute, c'est pas moi qui ai pas compris, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte ». Et donc c'est long à apprendre. On ne peut pas tout écrire, c'est pas possible. Parce que moi, même au bout de... C'est ma 11e saison cette année, je ne comprends pas tout et je me fais encore surprendre. Et j'entends des bergers qui sont bergers depuis 30 ans qui me disent « mais moi, je me fais encore surprendre. J'étais persuadée qu'elles allaient faire comme ci, comme ça. » Et puis, c'est du vivant, on n'est pas dans leur tête, on ne peut pas savoir. On ne peut pas tout deviner. Mais sinon, on s'ennuierait. Il n'y a pas de journée identique, même si ça se ressemble, c'est jamais pareil.
C'est un métier ancestral, évidemment, depuis qu'on a domestiqué les animaux. Il y a des gens qui font office de berger. Avant, c'était des tout petits troupeaux. C'est un métier ancestral qui a beaucoup servi comme métaphore dans des religions très présentes chez nous, comme le christianisme. Le bon pasteur, c'était, celui qui est capable de sacrifier pour son troupeau. Le berger a été beaucoup marqué par ces métaphores. D'ailleurs, le bon berger aujourd'hui est toujours celui qui est capable de prendre des risques pour éviter que son troupeau subisse des attaques, des dégâts. Je pense que ce métier ancestral, il a fait l'objet de nombreux manuels. Les plus anciens qu'on a pu retrouver sont des manuels qui datent, d'après ce que j'ai compris, il y a 400 ou 500 ans, dont une partie reste complètement d'actualité. C'est une époque où les gens ne savaient pas lire. Et les auteurs, l'auteur à l'époque, avait fait d'ailleurs une préface en disant « Je sais bien que les bergers ne savent pas lire, mais que tous ceux qui sachent lire aient à cœur de le lire avec eux. » Et donc il y avait les lettrés qui étaient encouragés à traduire par oral, donc, ce qui était écrit pour des bergers qui ne savaient pas lire. Donc ça fait très longtemps que certains s'en préoccupent. Il y a eu d'autres manuels assez régulièrement. Le dernier en date qu'on a identifié, je crois, s'appelait Le Bon Boutonnier, il date d'il y a une cinquantaine d'années. Mais depuis, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, on ne l'a pas identifié. Il y en a peut-être qui vont nous dire qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Ça existe en Suisse, par exemple, en Suisse allemande. Il y a un très bon manuel du berger, qui est plutôt le vacher d'ailleurs là-bas. Donc ça existe. Sous cette forme spécifiée, il y a des livres techniques sur l'élevage ovin, bien évidemment. Il y a des fiches techniques qui existent sur Internet. Il y a des choses qui existent dans les formations, sous forme de cours. Mais quelque chose qui soit utilisable facilement quand on n'a plus accès à Internet, qu'on n'a pas la force à la fin de la journée de chercher partout, qu'on veut être à peu près sûr que l'information a été validée par des gens qui sont un peu d'expérience, on n'a pas trouvé. Donc on s'est dit, on va essayer de le faire. Avec les bergers, mais pas qu'avec les bergers, on est aussi allé chercher qui ont des compétences complémentaires. Je pense par exemple à Mutualité Sociale Agricole en matière de prévention. Prévention des maladies, prévention des risques, ça peut être les risques liés à, par exemple à la maladie de Lyme, la maladie de Lyme qui est transmise par des parasites, qui est extrêmement invalidante. Et il y a un certain nombre de bergers qui en sont atteints, bon, on est allé chercher la parole et l'expérience des médecins, parce que c'est un domaine qui n'est pas de la compétence des bergers. Voilà, donc c'est pas exclusivement des bergers qui parlent aux bergers, mais on essaye que, en tout cas, ça soit fait avec et pour les bergers.
Et du coup, l'existence de ce petit manuel que tu n'as pas vraiment eu entre les mains encore, puisqu'il est sous presse, comme on dit, mais tu as vu deux, trois... trois choses. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui finalement est indispensable pour les jeunes bergers, enfin pour les bergers qui débutent? Est-ce que toi t'aurais aimé avoir ça sous la main?
Oui, je pense que j'aurais aimé, surtout si c'est écrit par d'autres bergers en fait. Et puis les petites annotations qu'ils ont prévues, le conseil d'Émilie, le conseil de Lucie, je trouve ça rigolo parce que je pense qu'on se sent moins seul du coup quand on lit ça. Oui, j'aurais aimé avoir ça. Après... moi, j'ai beaucoup aimé quand même, quand j'ai commencé, et même encore aujourd'hui, d'échanger de vive voix avec les autres bergers, ceux qui ont plus d'expérience que moi, et avec les éleveurs. Et si ça n'a jamais été écrit, c'est parce qu'on transmet toutes nos connaissances de façon orale depuis des milliers d'années, hein, depuis le temps que ce métier existe. Et en fait, cette transmission orale, il ne faut pas qu'elle se perde, parce que c'est ça qui est beau, on partage notre passion en même temps, nos expériences, etc. Mais c'est une très bonne chose que ce soit écrit, parce que ça évite que ça se perde, et puis ça se transmet mieux quand même. Ouais, moi j'aurais bien aimé l'avoir quand j'ai commencé, ça m'aurait aidé, ouais. J'ai galéré. J'ai beaucoup galéré, mais bon.
À gauche, avance à gauche. Dernier, avance dernier, avance. Voilà, doucement.
Donc là, c'est un test, un prototype, c'est voilà, un ballon d'essai qu'on a voulu faire sous une forme qui soit quand même très aboutie pour qu'on voit ce qu'un manuel, à quoi ça peut ressembler, quoi. On a même demandé à un illustrateur de venir nous mettre quelques dessins pour aérer et nous faire rigoler un petit peu. Il n'est pas parfait, bien évidemment. On a essayé de faire au mieux qu'on peut, mais on tenait absolument à ce qu'il soit fini dans l'été, pour qu'on puisse le faire parvenir aux bergers en situation d'alpage, qu'ils puissent le lire, l'utiliser comme un manuel, c'est-à-dire pas lire tout d'un coup, mais lire quand ils en ont besoin. Ça, ils en parlent, je regarde, ah non, c'est pas là, donc je note, il faudra rajouter, parce qu'autrement, le manuel, il est nul, il n'y a pas ce que je cherche. Donc l'idée, c'est que petit à petit, à travers leur expérience, on puisse dire, ça, on aurait dû le mettre, il va falloir qu'on le mette. Mais Au-delà de ça, on va leur dire c'est très bien de nous dire ce qui manque, mais si vous aviez des propositions à faire un peu concrètes, prenez votre plume, appelez-nous. Donc on a mis une fiche en leur demandant de remplir ce qui va pas, un peu comme dans, il me semble que c'était le guide du routard qui avait fait ça au début, bon, des choses comme ça. Améliorer, vous ne trouvez pas bon, ben, proposez des améliorations. Et puis on s'est dit, mais qu'ils fassent ça chacun dans leur coin l'été, c'est très bien, mais si on faisait un moment où on les invite à venir se rencontrer, rencontrer les premiers qui ont pris le risque de faire cette première édition, cette première version. Et donc on invite les bergers, les techniciens, les chercheurs, tous les gens qui ont envie de contribuer à l'amélioration de ce manuel, le 5 et le 6 novembre, à venir réfléchir avec nous à Champollion, la maison du berger, à l'amélioration. Et non seulement réfléchir, mais travailler avec nous. Le soir, on fera la fête. On essaiera de passer un bon moment, mais l'objectif, ce sera que ce manuel sorte amélioré, qu'on puisse y travailler l'hiver et sortir au printemps de l'année prochaine, avant l'estive, quelque chose qui soit là validé par un plus grand nombre de bergers, validé par l'expérience. Il ne sera sûrement pas le manuel du bon berger, ce ne sera sûrement pas le parfait manuel. On essayera de faire quelque chose qui ressemble à un bon manuel du berger d'alpage, validé par l'expérience, validé par tous ceux qui ont pris la peine de le lire et d'utiliser. Donc ça, c'est le chantier pour l'année qui vient.
Ils ont suffisamment à manger. Doucement, doucement. Stop, stop. C'est bien, viens au pied. C'est bien, Zeppeline, c'est bien, viens au pied, viens.
On a oublié plein de choses. On n'a sans doute pas mis dans le bon ordre. Il y a des choses qui peuvent fâcher, il y a des choses qui peuvent être inexactes, on en est conscient, mais on a pris le risque de le proposer à la critique.
Estive.
Estive.
Voyage au cœur de la culture pastorale des Alpes. Une émission proposée par la Maison du Berger.
Estive.